Bonjour à tous. Pendant tous les derniers dimanches que nous avons passés ensemble, on a évoqué tout ce que la mort de Jésus à la croix nous a apporté. Et pour clôturer cette série sur les bénéfices de la croix, j'aimerais prolonger cette réflexion de la croix que Jésus a portée à la croix que nous sommes appelés à porter. Alors, je sais qu'annoncer ça comme ça, ça fait pas très glamour. Certains qui se disent, voilà, comme quelqu'un que connaît bien nous a dit, ça va risque d'avoir un peu le goût de brocoli, cette histoire-là. Mais Jésus a parlé de cela. Jésus a parlé de cela et on va revenir sur cette parole que Jésus nous a laissée aux chrétiens, aux chrétiennes, à ses disciples. Il a dit, si quelqu'un, on lit ça dans Luc 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Hein, on voit bien au verset 23, il est bien question aussi que de se charger de sa croix. Alors c'est vrai que Jésus s'est chargé de sa croix. Là, Jésus, dans ces paroles-là, fait allusion à ce qui s'est produit pour lui. C'est-à-dire que quand quelqu'un était condamné à mort à cette époque-là et qu'il était condamné à être crucifié, il devait porter sur ses épaules une partie de la croix, la poutre transversale qu'on appelait le patibulum. Il y avait un mot technique pour désigner ce bois-là. Ça pesait très lourd et il devait le porter jusqu'au poteau sur lequel il allait être attaché. Et là, il est en train de dire, mais si vous êtes mes disciples, si vous croyez en moi, si vous vous saisissez de ma parole, si vous voulez me suivre, comme il est dit dans le texte, quelque part aussi, il va falloir aussi porter votre croix. Moi, je voudrais qu'on parle de ça ensemble ce matin, parce que ça nous concerne. En tout cas, pour les uns et les autres, pour ceux qui d'entre nous ont fait ce choix de suivre Jésus, ça nous concerne. Et je crois que porter sa croix pour nous, ça, c'est pas... De la même manière que, par exemple, les chrétiens et les chrétiennes du Sri Lanka ont porté leur croix. Là, on a un aperçu assez net de ce que ça peut vouloir dire pour certains croyants dans certaines parties du monde. La souffrance, le fait là de se réclamer du nom de Jésus, ça peut les confronter à la souffrance, à la honte, au discrédit, et puis à cette violence dont ils ont été les victimes, malheureusement. Alors, évidemment, nous, en Occident et en France en particulier, on est confronté à des difficultés, on est confronté à une certaine hostilité, à l'incrédulité ambiante. Mais il faut quand même admettre que ça n'a rien à voir avec ce que nos frères et nos sœurs au Sri Lanka peuvent vivre, par exemple. La souffrance, elle n'est pas comparable. Mais ça a quand même une signification pour les uns et pour les autres. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. Parce que ce sont des mots qui peuvent facilement... être mal compris. Moi, une fois, j'ai entendu une personne qui m'a dit « Moi, ma croix, la croix que je porte, c'est mon mari. » Donc, on sentait derrière, voilà, mon mari, c'est pas toujours évident de vivre avec lui, il m'en fait voir un peu toutes les couleurs. Et puis, il faut que je sois méritant par rapport à ça. Et quelquefois, c'est un peu cette approche, cette compréhension qu'on peut avoir de la croix. La croix, ça pourrait être comme on peut le comprendre comme un test que Dieu nous impose pour voir si on mérite ou pas d'aller au paradis. Sauf que la croix que Jésus a portée, c'est celle sur laquelle il a acquis notre salut. Ça, il n'y a rien à ajouter. Et il faut juste croire. C'est tellement simple, en fait, devenir chrétien. C'est croire que Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos fautes, pour le pardon du mal que nous avons commis, que nous sommes pardonnés et à ce moment-là, nous rentrons dans une nouvelle vie. Mais à la base, c'est un acte de foi dans ce que Jésus a accompli totalement, parfaitement. Et il n'y a rien à ajouter à cela. Mais c'est évident que Jésus, il n'a pas fait ça par plaisir. Ça, c'est quelque chose aussi, quelquefois, j'ai pu entendre. Quelqu'un m'a dit un jour, mais Jésus, quand il est venu pour nous sauver, il est venu et il a fait ça avec joie, il a fait ça avec bonheur. Ah ben non, 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 Jésus, il a fallu qu'il renonce à lui-même pour accomplir notre salut. C'était pas très agréable pour Jésus d'envisager la croix. C'était renoncer à son confort, c'était renoncer à sa dignité, parce que la croix, c'était infliger la honte à quelqu'un. C'était renoncer à la vie. Et on sait que Jésus, dans le jardin de Gethsémané, on se souvient de la prière qu'il a faite, si cette coupe pouvait s'éloigner, mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Jésus, il a fallu qu'il renonce à lui-même. Là, en mourant à la croix, il semblait qu'il perdait tout. Et en fait, Jésus a tout gagné. C'est le contraire qui s'est passé. Parce que 3 jours après la croix, il y a eu la résurrection et il est passé de la honte à la gloire. La honte que lui ont infligé les hommes, elle s'est évanouie au travers de la glorification, au travers de la victoire que Jésus a remportée sur la mort. Et la croix, c'est pas simplement que la mort de Jésus, mais c'est ce qui mène aussi à la résurrection. C'est-à-dire que c'est pas la mort qui a été victorieuse, mais c'est la vie qui a manifesté la victoire que Jésus a remportée à la croix. Bien, si nous suivons Jésus, si nous faisons ce choix-là, Jésus à ce moment-là devient notre suprême exemple. Et prendre sa croix, c'est une illustration de renoncer à soi-même en s'identifiant à Jésus. En fait, dans cette phrase-là, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc se charger de sa croix, c'est une façon de dire, c'est une façon de souligner le fait de renoncer à soi-même. Et c'est à cela que Jésus veut nous conduire. Alors, c'est ça qui est pas agréable. Renoncer à soi-même, c'est pas trop la tendance, c'est pas trop notre tendance naturelle et c'est pas du tout le langage qu'on a autour de nous. On est plutôt appelé à accomplir nos désirs, à faire ce que nous avons envie. Donc ça se fait, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à envisager, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans une perspective de foi, dans une perspective de relation vivante avec Dieu, ça ne se fait jamais à notre détriment. Parce que renoncer à soi-même, c'est permettre au Saint-Esprit de faire jaillir la vie en nous. Quand on renonce à soi-même, quelque part, on perd quelque chose, comme une petite mort. Mais comme pour Jésus, en fait, quand on renonce à soi-même, la vie vient. Parce qu'on accomplit la volonté de Dieu, et quand on accomplit la volonté de Dieu, on manifeste la vie. Vous êtes convaincus de ça ? Alors, ce que je vous propose de faire ce matin, c'est d'examiner l'appel de Simon-Pierre, de l'apôtre Pierre, pour bien comprendre à quoi correspond ce renoncement auquel nous sommes appelés et quels sont les bénéfices de ce renoncement. C'est pas à notre détriment, mais on est appelé vraiment à vivre quelque chose de particulier, de puissant, si nous rentrons dans cette logique-là. Alors, la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que porter sa croix, c'est renoncer à ses impressions. Souvenons-nous de ce qui se passe. L'apôtre Pierre, donc Simon-Pierre, son métier, c'était pêcheur. Et ce jour-là, comme tous les jours, il est parti à la pêche. Donc c'est la nuit que ça se passait, on va pêcher la nuit, c'est là que ça mord le mieux. Et puis, malheureusement pour lui, la pêche est totalement infructueuse. Il était parti à la pêche, mais il est rentré bredouille. Rien dans les filets. Et j'imagine que Simon-Pierre, lorsqu'il est revenu sur le bord du rivage, après avoir peiné pendant toute la nuit pour attraper du poisson, il était trop dégoûté, trop deg, comme on dit aujourd'hui. Ah, je suis trop deg, là. C'est tous ces efforts-là, et puis rien. Mes efforts n'ont rien donné. Ça voulait dire quand même pour Pierre que lui, c'était son gagne-pain. C'était son métier d'être pêcheur. C'était son métier d'aller chercher du poisson et puis de le vendre le matin sur le rivage. Et là, il ne pourrait rien vendre. Ça voulait dire aussi que ni lui, ni son frère André, qui travaillait avec lui, ni les équipiers, peut-être les salariés qu'il avait, ne pourraient toucher de salaire. Parce que à cette époque-là, le salaire, c'était pas à la fin du mois qu'on l'avait, c'était tous les jours. On avait besoin d'avoir au moins une pièce d'argent pour pouvoir vivre tous les jours. Et là, il ne pourrait rien recevoir et il ne pourrait rien donner à ceux qui travaillaient avec lui. Et là, il est en train de vivre cette déception quand il est sur le bord du rivage. Et alors qu'il est en train de vivre cette déception, voilà que la foule qui venait faire son marché, qui venait acheter son poisson, s'attroupe autour de Jésus qui était là pour prêcher. Et Jésus commence à parler, puis la foule s'agglutine autour de Jésus, et il monte dans le bateau de Simon-Pierre, et il lui demande de s'éloigner un peu. Comme ça lui permet d'échapper un peu à la pression de la foule, et de prendre un peu de distance pour s'adresser à cette foule qui est là. Et il commence à prêcher, il annonce la parole, il parle du royaume de Dieu, il parle de l'amour de Dieu, il parle du salut. Et lorsque Jésus a terminé de prêcher, il dit à Simon-Pierre de s'éloigner un peu. Et il lui demande après de jeter les filets. Et quand Jésus demande ça à Pierre, Simon-Pierre, il peut pas faire autre chose que d'exprimer sa lassitude et sa fatigue. Si on revient à ce texte, on trouve dans Luc 5, il nous est dit « Avance plus loin là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Voilà ce que Jésus dit à Simon-Pierre. Et Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. En d'autres termes, Simon-Pierre est en train de dire, mais à quoi bon? À quoi bon jeter le filet? On a fait, c'est un geste qu'on a répété pendant toute la nuit et ça n'a absolument rien donné. Donc on sent, le gars là, il est fatigué. Il est là. Mais ce qui va changer la situation, c'est que Simon-Pierre a laissé résonner la parole qu'il venait à nouveau d'entendre. Et il fait le pas de la foi. Il venait d'entendre Jésus prêcher, et là, Jésus s'adresse à lui. Il adresse une parole à lui. Et c'est ce qui fait qu'il va se décider à jeter le filet une fois encore. Il y a pas vraiment beaucoup d'enthousiasme dans ce que Simon dit à Pierre. C'est un peu comme s'il dit, d'accord. Mais là, vraiment, Simon-Pierre, il n'a pas une foi qui permet de déplacer les montagnes. Moi, je ressens pas ça quand je lis le texte. Il a pas la foi qui permet de planter un arbre dans la mer. En fait, c'est quoi? Il a la foi grande comme un grain de moutarde. Il est fatigué, mais parce qu'il a entendu la parole de Jésus, parce qu'il s'est saisi de cette parole qui lui était adressée, là, cette parole, c'est un repère pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à ses impressions pour mettre la parole de Jésus en pratique. Et heureusement que Jésus ne regarde pas à la quantité de la foi, qu'il regarde à la qualité de la foi. Ok, j'ai plus de force, je suis là, je suis fatigué, mais cette parole, je la prends. Cette parole, je m'en saisis. Et sur ta parole, je vais quand même jeter le filet. Et le résultat, c'est qu'il y a tellement de poissons que là, les filets commencent à se déchirer. Et Simon-Pierre est obligé de demander à ses collègues et à Jacques et Jean qui sont à côté, qui travaillent avec lui, de venir l'aider pour tirer les filets tellement il y avait de poissons. C'est tellement désagréable, c'est tellement pénible et c'est tellement fatigant d'être confronté à l'échec. Et quand on est confronté à l'échec, ça inspire une profonde lassitude, une profonde fatigue. Et peut-être que c'est ce que vous ressentez ce matin et c'est ce que vous vous dites. Vous dites que vous n'avez plus assez de foi pour pouvoir surmonter la déception. Et vous vous laissez gagner par cette impression négative. Et vous vous dites, mais à quoi bon? À quoi bon revenir à l'église? À quoi bon prier? J'ai tellement prié pour ça et j'ai demandé à mes frères, à mes sœurs de prier pour ça. À quoi bon continuer d'avancer alors que je me sens tellement fatigué? Mais Jésus ne regarde pas à ta quantité de foi, il ne regarde pas au niveau de ta foi, il regarde à la qualité de ta foi. Or, une foi de qualité, c'est quand on croit malgré tout dans la parole de Dieu. C'est quand cette parole est un repère et qu'on entend Jésus nous parler, Jésus nous dire « mais jette le filet encore ». Et si tu es là ce matin, c'est une invitation à jeter à nouveau le filet. Et il va se passer quelque chose, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. On a une foi de qualité quand on croit malgré tout dans la parole de Dieu. Quand la parole est le socle solide sur lequel repose notre foi. Sinon, ce sont les impressions qui resteront. Et si nous nous laissons guider par nos impressions, à un moment donné, on baisse les bras, on jette plus le filet. Cette parole qui est remplie de promesses, qui est remplie de bénédictions, qui est remplie de délivrance, elle s'accomplit dans notre vie quand nous renonçons à nos impressions négatives et que nous continuons d'avancer par la foi, que nous savons nous saisir de cette parole que nous entendons par la foi. Vous savez, il y a quelques temps de cela, il y a des années en arrière, quand j'ai été désigné responsable du groupe de jeunes dans l'église où j'étais, avec Sandrine, on avait accepté cette responsabilité, puis on s'était dit, bon, allez, on va se donner 2 ans pour pouvoir mettre en place une nouvelle équipe. Une équipe de leaders qui serait plus jeune que nous, parce que nous, on avait déjà servi depuis une bonne dizaine d'années auparavant. Et on s'était donné cet objectif-là. 2 ans. Ça a pris un petit peu plus de temps. En fait, ça a pris au total 13 ans. Pourquoi? Parce que, en fait, la particularité du groupe de jeunes de l'église dans laquelle on était et dont on s'occupait, c'est que la majorité étaient des étudiants. On était dans une ville étudiante et donc ça tournait beaucoup. Et les personnes dans lesquelles on investissait, elles ne restaient pas. On a vu des jeunes hommes, des jeunes femmes avec des qualités extraordinaires. Et on s'est dit, ben ça y est, on a trouvé les personnes qui vont pouvoir prendre en charge le groupe de jeunes. Et puis au bout de 2 ans, 3 ans, on dit, ben, pour raisons professionnelles, parce qu'ils avaient terminé leurs études, qu'ils devaient aller ailleurs, et ben ils partaient. Donc on avait investi en eux, et puis ils sont partis ailleurs. En fait, en 13 ans, on n'a pas connu un groupe de jeunes, on a connu, je sais pas, au moins 3-4 groupes de jeunes, parce que comme ça tourne régulièrement. Donc, il a, quelquefois, je vous avoue que la fatigue, la lassitude, je l'ai ressentie. Et on pouvait se dire, mais à quoi bon? À quoi bon? Sauf que, au bout de 13 ans, il y a un gars, qui s'appelle Guillaume, qui lui était passionné pour la jeunesse, qui avait reçu l'appel au ministère de la parole, et qui lui voulait servir dans l'église. C'est d'ailleurs un enfant de la maison. Et lui, il voulait rester. Il a trouvé du travail dans la ville et tout, et il est resté. Et au bout de 13 ans, on a fait la passation de pouvoir. Mais là, il a fallu que je continue de jeter le filet. Et au bout de 13 ans, j'ai attrapé un bon gros poisson. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au même moment, l'équipe s'est enrichie. Donc il y a eu un apport de compétences et de gens passionnés qui font que le groupe de jeunes, il est passé à un autre niveau même. Continuez de jeter le filet. Même si vous ressentez la lassitude, ne vous laissez pas gagner par vos impressions. Mais continuez de jeter le filet, saisissez-vous toujours de la parole du Seigneur, de la parole de Dieu, parce que c'est une parole vivante qui peut créer en vous ce dont vous avez besoin pour garder le cap. Deuxièmement, porter sa croix, c'est renoncer à ses intérêts personnels. Pour Simon Pierre, sa vie de disciple, elle commence avec cette déclaration. C'est ce qu'on lit au chapitre 5, verset 8 de l'évangile de Luc. Et là, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. C'est ce qu'il dit quand il voit là toute cette quantité de poissons qui était dans les filets. Et il nous est dit au verset 9 qu'il était saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Là, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. Il était comme un peu intimidé. Par la puissance qui s'est manifestée au travers de ce miracle accompli par Jésus. Il s'est dit, oh là là, là moi je suis pas capable là, de pouvoir être dans la présence de ce gars-là, il y a quelque chose qui se dégage là. Et face à la puissance divine qui se manifeste, Simon-Pierre, il reconnaît son indignité, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît son imperfection, il reconnaît son impuissance. Et encore une fois, c'est une parole que Jésus va lui adresser, c'est une parole que Jésus va partager avec lui, qui va le rassurer au verset 10. « N'aie pas peur, désormais tu pêcheras des hommes, ou je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Jésus a encore une parole qui incite Simon-Pierre à lui faire confiance. Et c'est ce qui permet à Simon-Pierre de faire le pas de suivre Jésus. Simon-Pierre, il est vraiment conscient qu'il n'a pas les moyens personnels de répondre à l'appel. Il n'a pas les moyens personnels, il n'a pas la force en lui-même de remplir la mission à laquelle Jésus l'appelle. Mais il s'abandonne à Jésus. Il fait confiance à Jésus. Il se repose sur la parole de Jésus. Simon est profondément touché par la parole de Jésus. Une heure avant, il avait pas la possibilité de se payer un salaire, ni de payer le salaire de ses équipiers. Peut-être qu'il se posait la question, mais comment je vais faire pour manger aujourd'hui? Comment je vais faire pour nourrir ma famille? Comment je vais faire là pour que mes employés ou les gens qui travaillent avec moi subviennent à leurs besoins? Et maintenant, son chiffre d'affaires est multiplié par 10, 20, 30, je sais pas. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la situation d'une heure avant. Mais Pierre quitte tout cela. Parce que la parole de Jésus l'a rassuré. Parce qu'il place sa confiance dans la parole de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que Simon-Pierre ne demande pas que le miracle se répète continuellement. Ça aurait été cool quand même d'embaucher Jésus là, à ce moment-là. Il dit pas à Jésus, si tu restes avec moi, là, je suis sûr d'avoir du poisson à tous les coups. Allez, vas-y, là, je t'embauche, là, signe le contrat. Rejoins mon équipe, viens travailler avec moi, avec André, avec mes collaborateurs, Jacques et Jean. En plus du sabbat, je te donne tous les RTT que tu veux, mais viens avec moi, reste avec moi. Viens dans mon bateau, viens avec moi tous les jours, viens pêcher tous les jours avec moi. Parce que là, je vais jamais manquer de rien. Je pourrai toujours verser un salaire à mes coéquipiers. C'est comme si c'était Simon-Pierre qui aurait appelé Jésus à le suivre. Il aurait dit à Jésus, suis-moi Jésus, et je ferai de toi un pêcheur de poissons. Ça aurait été l'appel de Simon-Pierre à Jésus. Mais la pêche miraculeuse, c'était quoi? C'était un signe de la mission que Jésus voulait confier à Simon-Pierre. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Si j'accomplis ce miracle, c'est pour que tu puisses voir ce que moi je vais pouvoir accomplir au travers de toi. Pas sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Tu vas jeter tes filets et tu vas témoigner de ce que je viens faire. Tu vas témoigner de l'amour de Dieu. Tu vas témoigner de Jésus qui vient sauver les hommes. Voilà ce que je veux te montrer au travers de ce miracle. On fait de Jésus un pêcheur de poissons quand on regarde d'abord à ce que Jésus peut nous apporter, à nous personnellement. Ça, c'est le Jésus qu'on voudrait qui guérisse tout le temps, qui guérisse continuellement. C'est le Jésus qui pourvoit, c'est le Jésus qui protège tout le temps, c'est le Jésus qui préserve mon confort de vie. C'est le Jésus qui m'aide à gagner le monde, qui nous conforte, qui nous installe. Jésus, c'est un pêcheur de poissons quand le miracle ou la bénédiction devient un but en soi. C'est un pêcheur de poissons quand le miracle ou la bénédiction, là, quand on considère que les bénéfices de la croix, c'est que tous nos désirs soient exaucés. Or, la bénédiction, c'est un encouragement à pleinement vivre sa vie de disciple. La bénédiction, c'est un encouragement à entrer dans la mission qu'il a préparée pour les uns et pour les autres. Le miracle, la bénédiction, ça indique que Dieu est avec nous pour accomplir des choses qui appartiennent à la mission qu'il nous confie aux uns et aux autres. Ce sont des choses qui montrent là, qui nous appellent et qui nous encouragent à vivre quelque chose qui va révéler Jésus, qui va glorifier Jésus. Et c'est ce que Jésus, en tant que maître, veut apprendre à ses disciples. Ne considère jamais la bénédiction comme un dû. Ne considère jamais la bénédiction comme quelque chose de normal. Qu'elle soit pour toi un encouragement à servir Dieu, au contraire, à vouloir encore plus glorifier Dieu. Si Dieu se glorifie au travers de l'exaucement de ta prière, eh bien que ce soit l'occasion pour toi de glorifier Dieu autour de toi. C'est un encouragement à ce que la bénédiction, le miracle dans ta vie, c'est ce qui est appelé à décupler ton envie et ta passion de le glorifier et d'annoncer quel sauveur extraordinaire il est. Vous savez, moi j'espère vraiment de tout cœur que la bénédiction, le miracle que nous sommes en train de vivre en ce moment au travers des locaux, ce soit un encouragement pour chacun d'entre nous à glorifier Dieu, à vouloir annoncer Dieu. On est tous appelés à rentrer dans une mission. Je veux dire, les locaux, c'est pas pour notre confort personnel. Les locaux, c'est pour pouvoir aller plus loin dans la mission. Et que cette bénédiction, ce miracle nous conduise à aller plus loin dans cette mission. Pour la bénédiction de nos voisins, pour la bénédiction de notre famille, pour la bénédiction de notre ville et de toute la région qui l'entoure. Seigneur, viens nous bénir, viens accomplir des miracles extraordinaires, mais que ça puisse contribuer à ce que l'Église, à ce que Émy rayonne dans cette ville, à ce que Émy rayonne dans cette région. Oui, Seigneur, je suis prêt à vivre le miracle, je suis prêt à être béni, mais que ce que tu m'accordes puisse contribuer à glorifier ton nom. Que ce soit ça qui nous anime profondément. Porter sa croix, c'est aussi renoncer à la routine. Simon aurait dû être un pêcheur toute sa vie. Chaque nuit de toute sa vie, il aurait dû mettre son bateau à l'eau. Chaque nuit, il aurait dû jeter les filets dans la mer. Et chaque nuit, il aurait dû tirer les filets pour ramener le poisson quand il pouvait. Chaque matin, il aurait dû revenir au rivage. Chaque matin, il aurait dû vendre le poisson qui avait été pris la nuit. Chaque matin, il aurait dû nettoyer ses filets et recoudre ses filets. Et puis repartir comme ça chaque jour et chaque nuit. Il aurait dû faire les gestes qu'ont fait avant lui son père. Il aurait dû faire les gestes qu'avait fait avant lui son grand-père. Il aurait dû faire les gestes qu'avait fait avant lui son arrière-grand-père. Il aurait dû faire les gestes qu'avait fait avant lui son arrière-arrière-grand-père. Il aurait dû faire les gestes qu'avant lui avait fait son arrière-arrière-arrière-grand-père. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, on ne choisissait pas son métier. C'est un métier qui passait de père en fils. T'es pêcheur parce que ton père était pêcheur. T'étais charpentier parce que ton père était charpentier. Ou agriculteur parce que ton père était agriculteur. Donc, normalement, Simon Pierre, il était, entre guillemets, condamné à avoir cette vie-là. Il aurait dû faire ça tout le temps. Son horizon aurait dû être limité au lac de Galilée, là où il pêchait, là où il vendait le poisson. Simon n'est qu'un simple pêcheur. Mais parce qu'il répond à l'appel de Jésus, parce qu'il fait ce choix de le suivre, il va avoir une vie extraordinaire. Il va rentrer dans quelque chose de complètement nouveau. Il va sortir de la routine. je crois qu'en fait, la meilleure définition, en tout cas celle que moi j'aime le plus de ce qu'est un disciple de Jésus, c'est qu'un disciple de Jésus, c'est une personne ordinaire avec laquelle Dieu fait des choses extraordinaires. Notre vie s'ouvre à de nouvelles possibilités lorsque nous suivons Jésus. Et ça, ça élargit nos horizons. Et on sort de notre routine. En fait, comme on l'a vu avec toute cette série sur marcher en nouveauté de vie, quand on devient disciple de Jésus, nous devenons ce que nous devons être. Et l'extraordinaire rentre alors dans l'ordinaire. C'est juste une question de foi et de confiance. Simon Pierre, il savait qu'en lui-même, il pouvait pas. Il n'avait pas ce qu'il fallait. Il n'avait pas la formation théologique qu'il fallait pour pouvoir servir Dieu ou Jésus. Il n'avait pas les compétences à la base, forcément. C'était un pécheur. Mais pourtant, il va vivre cet extraordinaire. Et ce qui va faire la différence, c'est la foi. C'est la confiance. C'est le fait toujours de se saisir et d'entendre cette parole de Jésus. Un des meilleurs exemples de cela, c'est il y a quelques temps de cela, il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, il y avait une étudiante qui fréquentait le groupe de jeunes. Et puis... elle venait de prendre le baptême. En fait, elle était obligée d'attendre un peu pour prendre le baptême parce que dans sa famille, c'était pas très simple. Donc, elle a été obligée d'attendre 18 ans. Mais elle était vraiment motivée pour devenir disciple de Jésus, on va dire ça comme ça. Et puis, un jour qu'elle prend le tramway pour se rendre à ses cours, à suivre des cours de psychologie, je crois, et pour se rendre à ses cours, voilà que elle venait d'une autre ville. Et puis, alors qu'elle prend le tramway, elle rencontre dans le tramway une personne qui était une amie de ses parents, qui vivait dans la ville d'où elle venait. Alors forcément, elle était un peu surprise de trouver l'amie de ses parents ici. Elle dit, elle va la voir, lui dire bonjour. Elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et puis la dame lui répond, en fait, je suis malade. On a diagnostiqué une maladie très grave et je suis obligé là de me soumettre à un traitement très lourd. Et ça, c'est pas possible dans la ville où j'habite. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici. Et là, maintenant, je suis obligé de résider ici, en milieu médicalisé, pour pouvoir avoir les traitements, pour pouvoir traiter cette maladie. Et puis, cette jeune fille, elle arrive à l'arrêt où elle doit descendre. Et puis, la dame descendait au même arrêt. Et puis, avant de partir, elle a vraiment à cœur dit, mais écoute, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Alors, la dame était un peu surprise. Elle dit, ok, d'accord. Prie pour moi, elle le connaissait un petit peu. Donc, ils se sont assis sur le banc, qui était à la sortie du tramway. Et puis, cette jeune, qui avait 18 ans, quoi, hein, qui venait de prendre le baptême, elle prie pour la dame. Et puis, elle s'en va. Et un autre jour, 15 jours, 3 semaines après, elle remonte dans le tramway pour aller à ses études, quoi, de plus ordinaire, hein, pour une étudiante, de prendre le tramway pour aller à la fac. Et elle retombe sur la dame pour laquelle elle avait prié. Et elle va la voir, elle lui dit bonjour, elle dit comment elle lui demande des nouvelles forcément, elle dit comment ça va, elle dit je vais rentrer chez moi parce que en fait la maladie elle a régressé, elle est en train de disparaître. Comment l'extraordinaire peut rentrer dans l'ordinaire simplement parce que par la foi, par la confiance. Cette jeune fille, quand vous la voyez, elle paraît toute frêle, toute fragile. Mais elle a vécu l'extraordinaire, l'extraordinaire entrer dans son ordinaire. Ça, c'est l'extraordinaire de quelqu'un qui répond oui quand Jésus dit « suis-moi ». Elle a dit « oui, je te suis ». Et voilà ce qu'elle a vécu. C'est vrai dans des situations qui sont complètement différentes. Un jour, c'est un témoignage un peu amusant, mais il y avait un jeune, il avait été hyper motivé par tout un enseignement qui avait été donné dans le groupe de jeunes sur la générosité, sur donner la générosité. Et puis un jour, il va s'acheter des chaussures, des nouvelles chaussures. Et puis après s'être acheté des nouvelles chaussures, il va à la réunion de jeunes. Et sur le chemin, il croise un SDF. Et puis il voit que le gars qui était dans la rue, ses chaussures, il en avait pratiquement plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se déchausse et il donne ses chaussures au gars. Il arrive à l'église, à la réunion de jeunes, mais il était enflammé. Il dit, waouh, super, j'ai donné mes... En plus, c'était l'automne ou l'hiver, hein, c'était pas le plein été. Il dit, j'ai donné mes chaussures. Et il est arrivé plein de joie, plein de motivation et plein de zèle comme ça. Et ben ça, je crois aussi que c'est l'extraordinaire qui se manifeste dans l'ordinaire. C'est ce que Jésus, le Saint-Esprit lui avait mis à cœur à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on change le monde. C'est comme ça que le monde change. C'est au travers de ce que nous sommes, de ce que Dieu, ce que Jésus nous rend capable de faire. Ouais, quelquefois, ça coûte de suivre Jésus, hein. Mais on perd jamais rien. Jamais rien, jamais rien. Si on a une relation de qualité qui nous conduit à aimer Jésus, qui nous conduit à aimer Dieu, parce que ça, c'est vraiment la base de la vie chrétienne, on y gagne toujours quelque chose. On gagne la joie, on gagne la satisfaction, on gagne une récompense dans les cieux aussi. Et le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est que porter sa croix, c'est aussi renoncer à sa nature. Ça, c'est important. Alors, c'est un peu ce qu'on a vu pendant des semaines et des semaines, là, mais on va y revenir parce que suivre Jésus, ça voulait dire tout laisser. Si on revient au texte de Luc 5, au verset 11, après le miracle là qui a eu lieu, ils ramenèrent alors leur barque à terre et ils laissèrent tout pour suivre Jésus. Ils laissèrent tout pour suivre Jésus. La priorité pour Pierre et pour ceux qui vont répondre à l'appel avec lui, c'est Jésus et c'est la mission qui lui est confiée. Et Pierre, Simon Pierre, se rend disponible pour cela. Il décide que son métier, sa famille, ses amis, ce ne seraient pas des entraves à sa mission. Alors comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire que Simon Pierre il a abandonné sa famille, parce qu'on sait dans un autre passage de la Bible, du Nouveau Testament, qu'il avait pris des dispositions pour que son épouse l'accompagne quand il partait prêcher. Mais ça veut dire que Simon Pierre s'est consciemment donné comme objectif de répondre à l'appel de Jésus. Ok, j'entends cette parole, j'entends cet appel, donc ça va devenir mon objectif. Et pourtant, Simon-Pierre, ce n'était pas un gars parfait. L'Évangile nous dit qu'il va commettre plusieurs erreurs, ce qui montre bien qu'il avait besoin de changer. Il avait toujours besoin de s'améliorer. Et il a fallu que Simon-Pierre combatte sa nature, renonce à sa nature. C'est ce qui se passe notamment lors de l'épisode bien connu où, vous savez, Jésus annonce à ses disciples qu'il va souffrir et qu'il va mourir. Et Pierre refuse. Il annonce ça, on lit ça dans Matthieu 16, au verset 22. Alors, Pierre le prit à part, il prépare Jésus, il se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas, c'est pas possible. Tu es le Sauveur, tu es le Messie, tu vas pas mourir, tu vas pas être soumis à la souffrance et à la mort. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan. Arrière de moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Comme les êtres humains. C'est sa nature qui s'exprime à ce moment-là à Simon-Pierre. Et notre nature, elle veut que les choses se passent comme on veut. Notre nature, elle veut que les choses se passent comme on a envie. Elle ne veut pas que l'on renonce à soi-même. Au contraire, elle dit, allez, écoute-toi, fais ce que tu as envie. Mais Simon-Pierre est repris par Jésus. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand vous continuez la lecture et que vous passez au verset 24, on voit que dans Matthieu, l'appel à renoncer à soi-même est placé juste après. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. Et vous retrouvez les mêmes paroles qu'on a lues dans l'évangile de Luc tout à l'heure. En se laissant reprendre, Simon-Pierre montre qu'il est prêt à se laisser instruire. Il est prêt à se laisser façonner par Jésus. Il accepte de renoncer à ses propres certitudes, à ses propres idées. Et c'est ça qui va lui permettre de s'améliorer et c'est ça qui va lui permettre de gagner en perfection, si on peut dire ça. En acceptant de tout perdre, il a tout gagné. Parce que la réponse à l'appel, c'est ce qui va lui permettre aussi de changer. C'est ce qui va changer son cœur, c'est ce qui va changer son caractère. Ça ne va pas se faire du premier coup, mais il a pris cette direction et il va s'y tenir. Et ça n'a pas été le cas de tous les disciples. Judas, lui, il n'a pas renoncé à sa nature. Il a livré son maître pour 30 pièces d'argent. Lui, il aimait l'argent. Et sa nature le poussait à gagner de l'argent. Parce que c'est ça qui était prioritaire. C'était pas tant la mission que Jésus lui avait donnée. Lui, il profite de la situation pour s'enrichir. C'est terrible. Et en faisant cela, il cherche à gagner le monde. Il n'est pas vraiment intéressé par la mission. Il cherche son avantage. Il reste centré sur lui. Il a fait partie des disciples, mais il n'a pas renoncé à lui-même. Il n'a pas renoncé à sa nature. Et en voulant tout gagner, il a tout perdu. Ouais, c'est ça. C'est pas évident de renoncer à soi-même. Il y a un autre exemple qui m'a frappé. Un jeune qui était venu me voir un jour, et puis il a dit, Xavier, il faut que je te parle parce que j'ai un problème dans ma vie. C'est la pornographie. En fait, ça avait commencé quand il était ado, au collège. Et il y avait certains de ses amis qui étaient venus avec des images de cette nature-là. Et à partir du moment où il a vu ça, il a été accroché. Terrible, c'est un vrai piège, c'est un hameçon terrible, ça. Et ça avait, pour le coup, il était pris dans cette logique-là, et il l'alimentait, ses pensées, de ses images, et son imagination. Et il s'était mis à fréquenter une jeune fille, et il m'a dit, écoute, il s'était engagé, il avait pris le baptême, mais ça, il en était pas, ça l'accrochait toujours. Et il a dit, mais moi, j'en ai marre de ça, j'en ai marre. Et puis surtout, là, je veux vraiment construire une relation sérieuse avec la jeune fille que j'aime, avec laquelle je veux m'engager. Et toutes ces images que j'ai dans la tête, je ne veux pas les projeter sur celle que j'aime. Moi, je veux avoir des pensées qui soient saines. Et je veux avoir une relation saine avec elle. Et il a dit, il a fallu que je prenne cette décision-là. Cette décision d'en parler. Cette décision de venir. Et alors je lui ai proposé dire bah écoute à ce moment-là on va en parler régulièrement, on va commencer à prier pour ça, mais pas simplement. C'est-à-dire que moi maintenant que tu es venu me voir, tu me donnes la possibilité de pouvoir te dire où tu en es. Il dit ok c'est bon. Au bout de quelques semaines seulement, il a été libéré. Au bout de quelques semaines seulement, il a été délivré. À partir du moment où il avait fait ce choix, et je peux vous garantir, aujourd'hui, il est marié avec cette jeune fille. Ils ont deux enfants, enfin un enfant. Il y a le deuxième qui arrive bientôt. Et c'est de la bombe pour Dieu. C'est de la bombe pour Dieu. Ils ont des projets plein la tête qui sont appelés à se réaliser. Ils sont confrontés à certaines difficultés. Mais ils veulent investir notamment dans les jeunes. Ils veulent acheter des instruments de musique pour pouvoir les mettre à disposition. Ils veulent aider les jeunes à trouver leurs compétences, leurs talents. Ils veulent servir au travers de l'Église et même au-delà. C'est de la vraie bombe. Ils sont rentrés dans la mission de Jésus. Mais il fallait qu'ils renoncent à sa nature. Et il a fallu qu'il ait ce courage. Ça, c'est renoncer à soi-même. Il aurait pu être confronté à la honte. Mais c'est ce que Jésus dit. Et parce qu'il a dépassé ça, il est rentré dans la mission de Jésus. Il est rentré dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Renoncer à soi-même, c'est un choix quotidien. Quotidien. Si on revient à Luc 9, 23... c'est vraiment exprimé, hein, qu'il se charge chaque jour de sa croix, chaque jour. Quand on renonce à soi-même, c'est jamais pour perdre, mais c'est toujours pour gagner, toujours pour gagner. C'est pour gagner une relation qui est plus profonde avec Dieu. C'est pour gagner un meilleur caractère. C'est pour gagner de meilleures relations avec les autres. C'est pour gagner des personnes à Christ. C'est pour gagner, pour tout gagner, pour rien perdre et pour tout gagner. Porter sa croix, c'est renoncer à toute compromission. Pour que ces choses se passent dans notre vie, il faut avoir cet objectif-là. Ça va forcément coûter quelque chose, mais c'est pour tout gagner. On va prier ensemble, mais je voudrais que, au terme de cet échange que nous avons pu avoir ensemble, de cette méditation, de cette réflexion, et je ne sais pas si quelqu'un pourrait nous accompagner, soit au piano, soit à la guitare, c'est très simplement se poser la question, mais qu'est-ce que ça coûte pour moi ? En fait, qu'est-ce que ça coûte pour moi ? Peut-être que pour les uns et les autres qui, pour les premières fois, viennent dans ce lieu et qui entendent l'Évangile, c'est une question que vous vous posez, c'est de se dire, mais si je suis prêt à entendre ce message-là, mais si à un moment donné je dois faire ce choix-là, qu'est-ce que ça va me coûter ? C'est important de se poser cette question. C'est important que vous donniez ces réponses, parce que cette réponse, oui ou non, c'est vous qui allez la donner. Mais pour ceux aussi qui sont engagés depuis plusieurs années, c'est bien aussi de se dire, mais qu'est-ce que ça me coûte aujourd'hui ? Quel est le pas que je dois faire ? Quel est le renoncement auquel le Seigneur m'appelle ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit me montre que j'ai besoin de dépasser, que j'ai besoin de surmonter pour que je puisse pleinement entrer dans la mission que Dieu m'a confiée ? Pour que je puisse entrer pleinement dans la mission qui va m'appeler, moi, une personne ordinaire, à vivre quelque chose d'extraordinaire ? Il y a des enjeux par rapport à ça. Il y a des enjeux pour nous, dans notre vie personnelle, dans notre épanouissement personnel. Il y a des enjeux pour l'aspect relationnel, mais il y a des enjeux aussi pour la mission que, collectivement, en tant qu'Émi, Église Émi, nous sommes appelés à remplir en ce lieu. Qu'est-ce que ça me coûte de suivre Jésus ? Est-ce que ça doit me coûter ma réputation ? Comme Jésus le dit, hein, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Est-ce que je suis prêt à renoncer à ça ? Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut pas dire là faire les choses de manière inconsidérée, dans ces cas-là, forcément. Mais si je fais les choses sagement, si je vis ma vie chrétienne sagement? Est-ce que je suis prêt à faire face à ça? À faire face au rictus de ceux qui se moquent parce que j'ai la foi? Est-ce que c'est ça que ça peut me coûter? Est-ce que j'ai pas besoin d'être éclairé sur les raisons profondes de mes dysfonctionnements? Pourquoi est-ce que je cherche absolument à être reconnu? Pourquoi est-ce que je cherche tout le temps la faveur des autres? Est-ce que ça, il faudrait pas que j'y renonce pour que je n'obtienne pas ma récompense dans le regard des autres, mais que j'obtienne ma récompense dans les cieux? Que je fasse les choses avec une vraie motivation spirituelle, pas pour briller dans le regard, pas pour pouvoir être reconnu, pas pour pouvoir être apprécié des hommes, mais principalement de Jésus, de Dieu, qui m'a confié quelque chose, qui m'a mis quelque chose entre les mains. Et ça, il faut que je le fasse pour lui, parce que c'est en le faisant pour lui que l'extraordinaire va se manifester dans mon ordinaire. Pourquoi est-ce que j'ai des relations si difficiles? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose auquel, là aussi, je dois renoncer pour pouvoir construire des relations plus saines? Pour pouvoir construire des relations de meilleure qualité avec mes amis en dehors ou dans cette église? Pourquoi est-ce que je suis animé du désir de tout le temps vouloir tout contrôler? Pourquoi est-ce que je ne veux pas lâcher certaines choses? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à remettre ça entre les mains de Jésus, à abandonner? Est-ce que c'est parce que justement je veux toujours avoir la maîtrise des choses? Et en gardant la maîtrise des choses, vous savez, c'est compliqué hein, pour les gens de notre entourage. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je renonce à ça? Est-ce que je n'ai pas besoin d'être éclairé là-dessus? Est-ce que le Seigneur ne veut pas m'indiquer une direction à prendre? Et l'insécurité que je ressens de manière permanente, qui me conduit peut-être justement à vouloir garder le contrôle sur les choses. Est-ce qu'il ne faut pas que je renonce à ça? C'est tellement pas évident, hein. C'est tellement plus confortable de tout maîtriser dans sa vie professionnelle, sa vie familiale. Est-ce que renoncer à soi-même, c'est aussi, ça peut pas être vouloir prendre du temps pour lire la Bible, pour prier? Ça veut dire peut-être renoncer à quelque chose que j'ai l'habitude de faire quotidiennement et qui prend un peu trop de place. Est-ce que renoncer à moi-même, ça ne voudrait pas vouloir dire réorganiser un peu ma journée pour passer le temps que je ne passe pas dans la présence de Dieu? Ou à lire la Bible pour bien connaître sa volonté, pour m'en imprégner? Est-ce que j'ai pas besoin de prendre plus de temps pour ça? Mais forcément, ça m'appelle à renoncer à quelque chose. Et là, je peux te dire que peut-être que ça coûte, mais là, tu seras gagnant. Tu seras gagnant parce que tu connaîtras mieux la volonté de Dieu. Tu seras gagnant parce que tu connaîtras mieux la présence de Dieu. Tu seras gagnant parce que tu saisiras plus l'amour de Dieu. Mais il faut renoncer. Est-ce que je suis prêt à prendre du temps pour approfondir ma vie de disciple, pour me former? Est-ce que je suis prêt à prendre du temps pour apprendre à écouter les autres? Dieu m'a placé dans une église, Dieu m'a placé dans un endroit où je travaille. Et là, il y a des besoins autour de moi, et pour pouvoir en prendre conscience, il faut que j'écoute. Mais est-ce que je suis prêt à renoncer à mon temps et à un confort en mettant à l'écoute de ceux qui ont besoin? Ça, c'est renoncer à soi-même aussi. Est-ce que c'est la générosité? Est-ce que j'ai pas besoin d'avancer plus dans la générosité, dans le don de moi-même, mais dans le don de mes biens, dans le partage, là aussi, d'être à l'écoute des besoins? Comme ce jeune homme là qui a donné ses chaussures alors qu'il faisait froid dehors, mais il les a données parce que il a été poussé à cela, il a renoncé à lui-même. Oui, Seigneur, s'il te plaît, viens nous éclairer ce matin. Viens nous aider à comprendre vraiment le vrai sens de porter sa croix. Dans notre vie personnelle, les uns et les autres, nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. Mais Seigneur, si nous voulons le faire et nous sommes prêts à le faire ce matin, c'est parce que nous considérons à la lumière de ta parole que ça ne se fera jamais à notre détriment, mais ça se fera toujours à notre bénéfice. parce que nous allons laisser la vie de Dieu s'exprimer. Nous allons laisser ton Saint-Esprit nous toucher, nous parler. Et tu vas nous conduire dans des choses extraordinaires. Seigneur, je te prie, mon Dieu, qu'au travers de ce temps que nous passons dans la prière, tu puisses éclairer, tu puisses semer des choses qui vont nous conduire à une autre dimension dans notre vie spirituelle. Cette prière, je la fais pour mes frères, mes sœurs, je la fais pour moi-même, parce que j'ai besoin aussi de renoncer à certaines choses dans ma vie. Mais je veux, ça j'en suis certain, je ne veux être prisonnier par rien, rien qui me tire en arrière, mais plutôt comme si mon pied allait en avant. Aller en avant, continuer d'aller en avant. Parce que j'ai une motivation et j'ai une envie, c'est de glorifier ton nom et c'est de te voir te manifester. Pas simplement de me bénir, Seigneur, merci pour tes bénédictions. Et merci parce que je crois en ta protection, je crois en ta guérison. Je crois, Seigneur, dans que tu pourvois à mes besoins, Seigneur. Et je l'ai vu tellement de fois. Mais Seigneur, je ne veux pas te réduire à ça. Je veux vivre ça pour dire qui tu es. Je veux vivre ça pour partager ça autour de moi. Et je te prie, mon Dieu, que ce soit notre motivation aux uns et aux autres. Seigneur, viens nous chercher là où nous en sommes, dans notre vie avec toi. Seigneur, saisis-nous par la main, s'il te plaît, ce matin, afin que nous puissions entrer dans cette mission, vivre ces choses merveilleuses que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons déposer devant toi ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Seigneur, apprends-nous à renoncer à nous-mêmes, s'il te plaît. Toi, Seigneur, les choses que j'ai pu évoquer, mais je te demande que dans le cœur de mes amis qui sont présents ce matin, tu puisses apporter un éclairage sur ce dont ils ont besoin de procéder à ce renoncement. Seigneur, ouais, merci de nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse vraiment se manifester concrètement dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, je veux te dire un merci. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que je crois qu'il y a des choses qui s'opèrent dans nos vies. Parce que je crois, Seigneur Dieu, que nous allons voir des choses extraordinaires à l'avenir. Parce que je crois que tu nous bénis. Tu bénis l'Église émise. Et que si tu nous bénis, c'est pour que nous puissions être un instrument de bénédiction pour cette ville et pour tout autour de nous. Alors, gloire et louange à toi. Oui, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur Dieu. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, tu es un Dieu merveilleux. Oui, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, et nous voulons nous attendre à te voir encore, te révéler dans ta gloire, et être encore ce Dieu merveilleux, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi, sois élevé et sois béni. Et merci, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec l'action de ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies, nous pouvons voir de grandes choses et de belles choses s'accomplir. Et nous te bénissons pour cela, nous te remercions pour cela, et nous t'acclamons pour cela, et nous te disons merci, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration de nos cœurs. Merci, Seigneur, pour le miracle que tu as accompli, Seigneur, au plus profond de nous-mêmes. Amen, Jésus. Gloire à toi. Amen.